question. Oui. Je ne suis pas sûr de l'avoir pleinement comprise à l'époque. Cela m'est venu en 1981, au cours d'une expérience de décorporation. Je m'en souviens clairement. Réponse. Et que te rappelles-tu? Question. Que j'étais confus au départ. Comment se pouvait-il que rien n'ait d'importance? Où serait le monde? Où serais-je, moi, si rien n'avait aucune importance? Réponse. Quelle réponse as-tu trouvé à cette très pertinente question? Question. J'ai saisi que rien n'avait d'importance intrinsèque en soi et par soi-même, mais que j'ajoutais du sens aux événements et ainsi faisais en sorte qu'ils aient de l'importance. J'ai compris cela à un niveau métaphysique très élevé également, et j'ai ressenti une intuition énorme ayant trait au processus même de la création. Réponse. Et l'intuition? Question. J'ai saisi que tout est énergie et que l'énergie se transformait en matière, c'est-à-dire en choses et en événements physiques, selon mon point de vue. J'ai compris alors que rien n'a d'importance, signifie que rien ne devient matière, sauf lorsque nous le choisissons. Puis, j'ai oublié cette intuition pendant plus de 10 ans, jusqu'à ce que tu me la ramènes à nouveau au cours de ce dialogue. Réponse. Tout ce que je t'ai apporté dans ce dialogue, tu le savais déjà. Je te l'ai donné auparavant, en entier, à travers d'autres êtres que je t'ai envoyé, ou dont je t'ai apporté des enseignements. Il n'y a rien de neuf ici, et tu n'as rien à apprendre. Tu n'as qu'à te rappeler. Ta façon de comprendre que rien n'a d'importance est riche et profonde, et te sert bien. Question. Je m'excuse, je ne peux laisser se terminer ce dialogue sans souligner une contradiction flagrante. Réponse. Qui est? Question. À maintes reprises, tu m'as enseigné que ce que nous appelons le mal existe afin que nous ayons un contexte à l'intérieur duquel faire l'expérience du bien. Selon tes propos, l'expérience de ce que je suis ne peut se produire s'il n'y a pas quelque chose que je ne suis pas. Autrement dit, pas de chaleur sans le froid, pas de haut sans le bas, et ainsi de suite. Réponse. C'est vrai. Question. Tu as même utilisé ces notions pour m'expliquer comment je pouvais considérer chaque problème comme une bénédiction et chaque criminel comme un ange. Réponse, c'est aussi vrai. Question, comment se fait-il alors que chaque description de la vie des êtres hautement évolués ne contienne presque aucun mal? Tout ce que tu as décrit, c'est le paradis. Réponse, bien, très bien. Tu penses vraiment tout cela? Question, en réalité, c'est Nancy qui a soulevé cette interrogation. Elle m'écoutait lui lire une partie du contenu à voix haute quand elle a fait ce commentaire. Je cite. « Je pense que tu dois poser une question là-dessus avant la fin du dialogue. Comment les EHE font-ils l'expérience d'eux-mêmes, en tant que « qui ils sont vraiment », s'ils ont éliminé tout l'aspect négatif de leur vie ?» J'ai trouvé que c'était là une bonne question. En fait, ça m'a arrêté net. Et je sais, tu viens de dire que nous n'avions plus besoin d'aucune question, mais je crois que tu dois répondre à celle-ci. Réponse. D'accord. Une réponse pour Nancy, alors. En fait, c'est l'une des meilleures questions contenues dans ce livre. Question. Réponse. Eh bien, c'est vrai. Je suis étonné que tu n'aies pas remarqué cela quand nous avons parlé des EHE. Je suis surpris que tu n'y aies pas songé. Question. J'y ai songé. Réponse. Vraiment? Question. Nous ne faisons tous qu'un, non? Eh bien, la part de moi qui est Nancy y a songé. Réponse. Ah, c'est excellent. Et bien entendu, c'est vrai. Question. Alors, ta réponse? Réponse. Je vais revenir à mon affirmation originale. Faute de ce que tu n'es pas, ce que tu es n'est pas. En d'autres termes, faute de froid, tu ne peux connaître l'expérience appelée chaleur. Faute de haut, l'idée du bas est un concept vide et insensé. C'est une vérité de l'univers. En fait, elle explique pourquoi l'univers est comme il est, avec son froid et sa chaleur, ses hauts et ses bas, et oui, son bien et son mal. Mais sache ceci. Tu es en train de tout inventer. Tu es en train de décider ce qui est froid et ce qui est chaud, ce qui est haut et ce qui est bas. Sors dans l'espace et tu verras disparaître tes définitions. Tu es en train de décider ce qui est bien et ce qui est mal. Et tes idées, à propos de toutes ces notions, ont changé au cours des années, même à travers les saisons. Par une journée d'été, une température de 5 degrés Celsius te semblerait froide. Au milieu de l'hiver, cependant, tu dirais « Ah, quelle journée chaude !» L'univers te fournit tout simplement un champ d'expérience, ce qu'on pourrait appeler une gamme de phénomènes objectifs. toi seul décides de l'étiquette à leur accoler. L'univers est tout un système de phénomènes physiques semblables. Et l'univers est énorme, vaste, incommensurablement gigantesque. Infini, en fait. Alors voici un grand secret. Il n'est pas nécessaire qu'un état contraire existe juste à côté pour fournir un champ contextuel au sein duquel la réalité que tu choisis pourra être vécue. La distance entre les contrastes n'est aucunement pertinente. L'univers entier fournit le champ contextuel au sein duquel existent tous les éléments contrastants et au sein duquel toutes les expériences sont rendues possibles. Voilà le but de l'univers, c'est sa fonction. Question. Mais si je n'ai jamais fait l'expérience du froid en personne et que je constate tout simplement qu'il fait froid ailleurs, très loin de moi, comment saurais-je ce qu'est le froid ? Réponse. Tu as vraiment fait l'expérience du froid. Tu as fait l'expérience de tout. Si ce n'est pas dans cette vie-ci, c'est dans la précédente, ou dans l'autre avant, ou dans l'une des nombreuses autres. Tu as vraiment fait l'expérience du froid, et du grand, et du petit, et du haut, et du bas, et de l'ici, et du là, et de chaque élément de contraste qui existe. Et ils sont gravés dans ta mémoire. Tu n'as pas à en faire à nouveau l'expérience, si tu ne le veux pas. Tu n'as qu'à te les rappeler, qu'à savoir qu'ils existent, afin d'invoquer la loi universelle de la relativité. Vous tous, vous avez tous fait l'expérience de chaque chose. Il en va ainsi de tous les êtres de l'univers, non seulement des humains. Non seulement avez-vous fait l'expérience de chaque chose, mais vous êtes chaque chose. Vous êtes tout cela. Vous êtes ce dont vous faites maintenant l'expérience. En effet, vous provoquez l'expérience. Question. Je ne suis pas certain de comprendre tout à fait. Réponse. Je suis sur le point de te l'expliquer en termes mécaniques. Ce que je veux t'amener à comprendre, c'est qu'à présent, tu ne fais que te rappeler tout ce que tu es et à choisir la portion dont tu préfères faire l'expérience en cet instant, en cette vie, sur cette planète, sous cette forme physique. Question. Mon Dieu, c'est tellement simple à t'entendre. Réponse. C'est simple. Tu t'es toi-même séparé du corps de Dieu, du tout, du collectif. Et tu es en train de te rappeler à ce corps. C'est le processus appelé R-appel. Rappel. En te R-appelant, en te rappelant, tu te redonnes à toi-même toutes les expériences de qui tu es. C'est un cycle. Tu le refais sans cesse et tu appelles cela l'évolution. Tu dis que tu évolues. En réalité, tu tournes. Tout comme la Terre tourne autour du Soleil. Tout comme la galaxie tourne autour de son centre. Tout tourne. La révolution est le mouvement fondamental de toute vie. L'énergie vitale tourne. C'est ce qu'elle fait. Tu es dans un mouvement vraiment révolutionnaire. Question. Comment fais-tu cela ? Comment arrives-tu toujours à trouver les mots qui clarifient tout ? Réponse. C'est toi qui clarifies. Tu l'as fait en nettoyant ton récepteur. Tu as filtré les parasites. Tu es entré dans une nouvelle volonté de connaître. Cette nouvelle volonté va tout changer, pour toi et pour ton espèce. Car dans ta nouvelle volonté, tu es devenu un véritable révolutionnaire. Et la plus grande révolution spirituelle de votre planète ne fait que commencer. Question. Il vaut mieux qu'elle se dépêche. Nous avons besoin d'une toute autre spiritualité maintenant. Nous sommes en train de créer une incroyable misère tout autour de nous. Réponse. C'est que même si tous les êtres vivants ont déjà vécu toutes les expériences contrastantes, certains ne le savent pas. Ils ont oublié et ne sont pas encore arrivés à se rappeler intégralement. Pour les êtres hautement évolués, il en va autrement. Ils n'ont pas besoin d'être directement confrontés à la négativité, entre guillemets, dans leur propre monde, pour savoir à quel point leur civilisation est positive. Ils sont nettement conscients de qui ils sont sans devoir créer de la négativité pour le prouver. Les EHE remarquent tout simplement qui ils ne sont pas en l'observant ailleurs dans le champ contextuel. Votre planète, en fait, constitue l'une de celles vers lesquelles se tournent les êtres hautement évolués qui cherchent un champ contrastant. Ce faisant, ils se rappellent comment c'était lorsqu'ils ont fait l'expérience de ce dont vous faites à présent l'expérience. Et ainsi, ils ont formé un champ de référence continu à travers lequel ils peuvent connaître et comprendre ce dont ils ont fait à présent l'expérience. Comprends-tu maintenant pourquoi les EHE n'ont pas besoin de mal ni de négativité dans leur propre société ? Question. Oui, mais alors pourquoi en avons-nous besoin dans la nôtre? Réponse. Vous n'en avez pas besoin. C'est ce que je t'ai expliqué tout au long de ce dialogue. Vous devez vraiment vivre dans un champ contextuel dans lequel ce que vous n'êtes pas existe, afin de faire l'expérience de ce que vous êtes. C'est la loi universelle et vous ne pouvez l'éviter. Mais vous vivez dans un tel champ maintenant. Vous n'avez pas à en créer un. Le champ contextuel dans lequel vous vivez s'appelle l'univers. Vous n'avez pas à créer un plus petit champ contextuel dans votre propre cour arrière. Cela signifie que vous pouvez tout de suite transformer la vie sur votre planète et éliminer tout ce que vous n'êtes pas, sans mettre en danger, d'aucune façon, votre capacité de connaître et de faire l'expérience de ce que vous êtes. Question. Sans sas, c'est la plus grande révélation de ce livre. Quelle façon de le terminer? Alors, je n'ai pas à continuer d'invoquer le contraire afin de créer et de faire l'expérience de la prochaine version la plus grandiose, de la plus grande vision que j'ai jamais eue de qui je suis? Réponse. C'est ça. C'est ce que je te dis depuis le début. Question. Mais tu ne l'as pas expliqué de cette façon? Réponse. Tu ne l'aurais pas compris jusqu'à maintenant. Tu n'as pas à créer le contraire de qui tu es et de ce que tu choisis pour en faire l'expérience. Tu n'as qu'à observer ce qui a toujours été créé ailleurs. Tu n'as qu'à te rappeler que cela existe. C'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui, je te l'ai déjà expliqué, n'était pas une malédiction, ni le péché originel, mais ce que Matthew Fox a appelé la bénédiction originelle. Et pour te rappeler qu'il existe, pour te rappeler que tu en fais l'expérience avant tout ce qui est, sous la forme physique, tu n'as qu'à lever les yeux. Question. Tu veux dire tourner les yeux vers l'intérieur? Réponse. Non, je veux dire exactement ce que j'ai dit. Lève les yeux, regarde les étoiles, regarde les cieux, observe le champ contextuel. Je te l'ai déjà dit, tout ce que vous avez à faire pour devenir des êtres hautement évolués, c'est augmenter vos capacités d'observation, voir ce qui est, puis faire ce qui fonctionne. Question. Ainsi, en regardant ailleurs dans l'univers, je peux voir comment les choses se passent ailleurs? Et je peux utiliser ces éléments contrastants pour me faire une idée de qui je suis ici et maintenant? Réponse, oui. Cela s'appelle se rappeler. Question, eh bien, pas exactement, cela s'appelle observer. Réponse, qu'observes-tu selon toi? Question, la vie sur d'autres planètes, dans d'autres systèmes solaires, d'autres galaxies. Je suppose que si nous pouvions rassembler suffisamment d'appareils, c'est ce que nous pourrions observer. C'est, j'imagine, ce que les EHE ont la capacité d'observer maintenant, étant donné leur avance technologique. Tu as dit toi-même qu'ils sont en train de nous observer ici, sur Terre. Alors, c'est ce que nous serions en train d'observer? Réponse. Mais que seriez-vous en train d'observer en réalité? Question. Je ne comprends pas ta question. Réponse. Alors, je vais te donner la réponse. Vous êtes en train d'observer votre propre passé. Question. Quoi? Réponse. Lorsque tu lèves les yeux, tu vois les étoiles, telles qu'elles étaient, il y a des centaines, des milliers, des millions d'années-lumière. Ce que tu vois n'est pas vraiment là. Tu vois ce qui était là. Tu vois le passé. Et c'est un passé auquel tu as participé. Question. Répète. Réponse. Tu étais là, en train de faire l'expérience de ces choses, de faire ces choses. Question. Moi? Réponse. Ne t'ai-je pas affirmé que tu avais vécu bien des vies? Question. Oui, mais et si je devais retourner à l'un de ces endroits, à tant d'années-lumière, et si j'avais la capacité de m'y rendre vraiment, d'être là maintenant, à l'instant même que je suis capable de voir de la Terre avant des centaines d'années-lumière, que ferais-je alors? De moi? Tu veux dire que je me verrais alors moi-même, existant en deux endroits à la fois? Réponse, bien sûr. Et tu découvrirais ce que je t'ai dit tout ce temps, que le temps n'existe pas. Et que tu ne vois pas du tout le passé, que tout est en train d'arriver maintenant. Tu es aussi maintenant en train de vivre des vies dans ce qui, en temps terrestre, serait ton futur. C'est la distance entre tes nombreux soi qui te permet de faire l'expérience d'identités distinctes et de moments dans le temps. Ainsi, le passé que tu te rappelles, que tu te rappelles, et le futur que tu verrais constitue le maintenant qui est, tout simplement.